Christophe Rouillon nous offre ses récits près du poil dans D'histoires et de contes.
L'éclair et Clara. Chapitre 1. L'éclair. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, dans un pays pas si lointain, un petit éclair que ses parents avaient appelé Guy. C'était un prénom courant chez les éclairs, et les parents de Guy étaient des éclairs assez ordinaires. Leur défaut d'originalité, cependant, n'enlevait rien, au contraire, peut-être, ni à leur gentillesse, ni à leur intelligence. Travaillant vaillamment les jours d'orage, c'est-à-dire souvent, car il y avait presque toujours quelque part un orage, efficace et précis dans la traditionnelle zébrure dont ils déchiraient la nuit ou la grisaille, ils vivaient leur vie d'éclair, respectés et appréciés de tous. Dans leur couple, le beau temps régnait. On ne laissait jamais les nuages s'accumuler. Le coup de foudre qu'ils avaient un jour éprouvé l'un pour l'autre au cœur d'une tempête en pleine mer semblait les avoir chargés d'électricité amoureuse pour des millions d'années. Pour Guy, c'était plus difficile. Il grandissait sans trouver sa voie, se demandant s'il deviendrait, comme ses parents, un éclair convaincant. Il se posait beaucoup de questions sur son identité. Il faut dire que sa première expérience professionnelle, survenue à l'occasion d'un bel orage d'été en montagne, avait été un relatif échec. Le pauvre Guy avait certes formé une zébrure remarquable, mais qui ne s'était presque pas éclairée. « Ce n'est pas grave, » avait dit sa mère. « Tu y arriveras la prochaine fois. »«
Oui, tu es encore trop petit, voilà tout, »
avait ajouté son père, sans pouvoir dissimuler dans sa voix l'ombre d'une déception.
« Non, il n'était pas trop petit. » Nombreux, parmi ses camarades, dont c'était également la première sortie, s'y étaient illustrés. « Bien sûr, il y aurait eu beaucoup à redire. » Sur l'aspect brouillon des éclairs formés dans le ciel par Nastiel, Ludvillane ou Vixal, par exemple. Mais quelle énergie déjà! Quelle luminosité! Guy s'en voulait. Il en voulait aussi à ses parents, qui auraient pu lui donner un prénom moins banal et être des gens moins gentils. Son orgueil blessé l'en avait à cet instant convaincu. Pour éclairer fort, il fallait de la méchanceté et un peu de cette vanité qui fait aux parents donner à leurs enfants des prénoms pas ordinaires. Chapitre 2. Clara. Il est une fois, la même qu'au premier chapitre, dans son propre pays, bêtement humain, une petite fille appelée Clara. Clara se distingue par son besoin de nature mouillée et de ciel nuageux. Clara n'aime rien tant que de se trouver dehors au moment de l'orage. C'est l'un de ses loisirs favoris. Abriter de la pluie, se laisser secouer par les grondements de tonnerre, sursauter avec ceux qui percutent les falaises, vibrer avec ceux qui résonnent dans les collines. Certains spectateurs se proposent de décompter l'arrivée de la déflagration à partir de l'éclair qu'il annonce. On essaie d'estimer ainsi la distance à laquelle celui-ci s'est produit. Mettant en jeu sa sensibilité artistique, davantage qu'un esprit scientifique que d'ailleurs elle n'a pas, Clara se contente d'admirer les innombrables variantes lumineuses. Surgissant n'importe quand de nulle part, les éclairs vous surprennent toujours. Comme d'autres phénomènes, les crues, les ouragans, ils vous donnent l'impression que rien, non rien sur Terre, n'a autant de force que la nature. Et que toujours, quoi que lui fassent les hommes, elle s'en sortira. Clara vit à la campagne. Dans son hameau, dont elle connaît si bien le quadrillage des ruelles et les enfilades de maisons mitoyennes qu'elle pourrait en ébaucher un plan vu du ciel, elle a ses coins d'observation. L'auvent de la grange à Camille et le grenier de la vieille maison inhabitée d'en face sont les plus fréquents. L'orage peut être dangereux. Il ne faut pas se promener à découvert. Et encore moins s'abriter au tronc d'un arbre. Rien n'est plus tentant pour la foudre qu'un arbre isolé au milieu d'un champ. Clara fait attention. Elle désobéit, c'est vrai, parce qu'elle n'a pas le droit de sortir lorsqu'il fait un si mauvais temps. Mais elle fait attention. Pas plus qu'elle n'a celui de se rendre dans ce grenier, surtout au seul moyen de cette vieille échelle rongée par les vers. Mais elle fait attention. Clara a un caractère plus encore fait d'indépendance que de désobéissance. Bref, elle fait ce qu'elle veut. On n'y peut pas grand-chose. Juste souhaiter qu'elle veuille de bonnes choses. Elle était à son poste, appuyée contre le mur de la grange, ce fameux soir où Guy n'avait pas vraiment réussi à s'éclairer. Elle avait vu bon nombre déjà de ces éclairs débutants, hésitant à s'affirmer, craintif ou trop appliqué. Mais Guy lui avait tapé dans l'œil. Façon de parler, heureusement. Il faut dire que d'en bas, et comme il faisait presque nuit, on l'avait mieux distingué. D'accord, il avait un côté ampoule à basse consommation, et s'était éteint avant de s'être tout à fait allumé. Mais sa percée dans le ciel, délicate, il en avait tracé le dessin à la perfection. Et ce dessin, d'inspiration classique mais très spontanée, s'était imprimé dans l'esprit de Clara, s'y fixant pour un temps bien plus long que ces espèces de feux d'artifice mal contrôlés, aux contours mal définis, projetés par ces autres petits nouveaux apparus çà et là. La fillette prenait toujours des notes à la suite des orages. De retour dans sa chambre, elle avait écrit sous la date, dans son cahier personnel, tiré de son coffre personnel, les mots suivants. Observez nouvelle génération d'éclairs. La plupart sans intérêt particulier. Proportion habituelle de jeunes vantards. Certains à suivre tout de même. Appelons-les Nastiel, zébrure discontinue. Ludvillane, surgissement à contre-temps. Et Vixal, zébrure éclatée. Étonnant, en revanche, par la précision de son trait, quoique timide en intensité, un autre nouveau venu, auquel je prédis un bel avenir orageux. Nous l'appellerons Guy. Clara avait eu l'idée farfelue, depuis qu'elle se passionnait pour ces phénomènes, de leur attribuer des prénoms. Il faut admettre qu'elle avait pour cela un don peu commun. Elle ne se trompait pas. Chapitre 3. Guy et Clara. Lors de l'orage suivant, Clara était montée au grenier de la maison inhabitée. Un vieux fauteuil, passablement bancal, le cuir tout râpé et les ressorts déglingués, terminaient là ses jours. Grâce à la petite, il servait encore un peu. Elle l'avait traîné et calé près de cette large ouverture sans fenêtre par où jadis en rentrait le foin. Bien installée, elle attendait les premières salves d'éclairs, projetant son regard au loin vers les sommets au-dessus desquels surgissaient d'habitude les plus beaux spécimens. Chez Guy, c'était le temps des derniers préparatifs, moment essentiel de concentration, comme pour un sportif, un acrobate, ou n'importe qui avant n'importe quoi d'important. Rassembler son énergie, calmer sa pensée et diriger sa volonté vers l'événement. Chaque éclair n'intervenait qu'à une seule et brève reprise par orage. Il ne fallait pas se louper. Ne pas non plus se complaire à trop de pression et se prendre au sérieux. C'était facile à dire. À l'école, le professeur le répétait. Un bon éclair est avant tout un éclair joyeux, animé du désir de participer. Dans cette suite sonore et visuelle, musicale et chorégraphique, chaque intervention se nourrit de la précédente, joue son propre rôle et provoque la suivante. L'harmonie du tout, qui donne au résultat final sa majesté et sa force, dépend de cette implication individuelle. Tout éclair adulte avait au cœur ces notions. Ils avaient beau ne représenter que l'une des nombreuses formes d'expression de la nature et se trouver motivés par un grand cycle qui les dépassait, l'humanité en était le témoin. Et certains de ces spécimens, la petite Clara en particulier, bien connue dans leur monde, les regardaient et les écoutaient avec attention. On existait pour soi-même et pour ses proches, mais dans un coin de la pensée, on tonnait aux oreilles de cette drôle d'espèce. Qu'on l'inquiète ou la ravisse, c'était son ciel qu'on illuminait. « Je sais bien tout cela, » ruminait Guy en préparant ses affaires. « Mais moi, J'ai peur de ne pas avoir ma place dans cette histoire, d'être fait pour autre chose. Toute une vie à faire l'éclair comme papa et maman, cela me paraît un peu monotone.
Tu es prêt, Guy ?
Son père se tenait à l'entrée de sa chambre. Tout à la fois sérieux et enjoué, il poursuivit.
Ça va être notre tour. Maman passe la première. Tu la suis juste derrière, et moi, je viendrai un petit temps après.
Tu sais, je crois qu'il y a quelqu'un en bas que ta zébrure a impressionné l'autre fois. Alors, cesse un peu de te tourmenter. Sois confiant, et profitons d'être tous ensemble.
Bientôt, tu seras grand. Tu préféreras aller aux orages de ton côté, sans nous, seul ou avec un ami. Une petite camarade, peut-être. On se verra de loin. Et plus tard encore, nous serons même trop vieux, ta mère et moi, comme tes grands-parents déjà, pour y participer. Allez, c'est parti !»
Guy n'était jamais certain de bien comprendre ce que lui disait son père. Mais il éprouvait toujours, à l'écouter, un plaisir intense qui emplissait sa jeune âme d'éclairs. Clara, de son côté, était déjà au cœur de l'orage. C'était un orage de fin de journée, avec le ciel qui s'assombrit tellement et les nuages si épais, si noirs, tout en relief, comme une grosse couverture molletonnée tirée sur le monde. De son secret observatoire, la petite fille profitait du spectacle, aux premières loges, comme on dit, restant parfois scotchée, comme elle l'écrivait dans son cahier, par une ou l'autre improvisation. Elle admirait la personnalité de chacun, sans a priori ni partialité, mais ne pouvait s'empêcher de guetter, dans la zone où elle était survenue la fois précédente, la probable arrivée de Guy. Un éclair, cela se produit très vite. En un éclair. Néanmoins, comme le cavalier accompagne et guide les mouvements du cheval, Clara faisait corps avec l'orage. Il lui arrivait, prise au jeu et à l'émotion, de s'inventer en chef d'orchestre, indiquant le rythme, le lieu et l'intensité des interventions à ses invisibles musiciens. Elle anticipait, avec un certain degré de réussite, il faut en convenir, l'explosive apparition des éclairs. Oui, elle les sentait venir. Et elle sentit soudain que Guy venait, avec son prénom un peu démodé. Alors, que cela fût utile ou non, elle se leva et s'approcha de l'ouverture pour l'encourager. « Vas-y, Guy, » pensa-t-elle très fort. « Donne tout ce que tu peux. » Illumine tout le ciel et fait résonner le plus fort des coups de tonnerre. » Et à l'instant même, sans plus songer ni au pourquoi ni au comment, donnant tout ce qu'il pouvait, Guy illumina le ciel d'une impeccable déchirure qui fit résonner peu après tous les alentours du plus fort des coups de tonnerre. Aller dehors. J'adore aller dehors. J'y vais sans effort. J'adore aller dehors, faire du sport. J'adore aller dehors. J'appelle mes amis pour aller au portique. Il y en a marre des écrans, des jeux électroniques. On s'amuse, on rigole, on dépense notre énergie. Si on n'a plus pour l'école, tant pis. J'adore aller dehors. J'y vais sans effort. J'adore aller dehors, faire du sport. J'adore aller dehors. Mais j'adore aussi râler à l'intérieur, râler avec mon frère, râler avec ma sœur, râler avec tous ceux qui veulent râler avec moi. Mais ce que je préfère, c'est râler dans les bois. Parti dans la montagne, je vois des animaux, quelques écureuils, des lapins, des oiseaux. En mangeant mon goûter, j'admire le paysage. Dans le ciel, pas un seul nuage. J'adore aller dehors. J'y vais sans effort. J'adore aller dehors, faire du sport. J'adore aller dehors. Mais j'adore aussi râler à l'intérieur, râler dans la cuisine à n'importe quelle heure, râler dans les toilettes à n'importe quel endroit. Mais ce que je préfère, c'est râler dans les bois. J'adore aller dehors. Le je ne sais quoi. Hier matin, au cours de sa promenade hebdomadaire dans le petit bois, derrière la maison de Marcel, Tiphaine a trouvé, dans la clairière proche de l'étang, au milieu des herbes, un je ne sais quoi. Tiphaine a 14 ans et demi, et c'était la première fois qu'elle en voyait un. Les je ne sais quoi sont très rares, ou alors ils se cachent bien. Tiphaine a pourtant reconnu tout de suite que c'en était un. Elle avait entendu les vieux du hameau décrire cet animal étrange,
évoquer, à qui mieux, ses particularités nombreuses dont l'une, incroyable, le distingue de tout autre habitant de notre planète.
Notice Wikipédia, extrait 1. Le je ne sais quoi ne vieillit pas. On le découvre, âgé de quelques mois, puis il disparaît, n'importe quand, parfois le jour même, au plus tard dans la 7e année qui suit sa découverte, sans avoir entre-temps subi la moindre des altérations échues à tout organisme vivant. Quand la fleur se fane, quand le caillou s'use, quand la barbe blanchit, le je ne sais quoi reste égal à lui-même. Jeune.
Tiphaine aime beaucoup les animaux. Elle les connaît bien, car son papa et sa maman, fermiers de leur état, en plus de Tiphaine et son petit frère Louis, élèvent des vaches, des poules et des lapins. Ceci explique pourquoi, décidée à la ramener à la maison, elle prit sans crainte sa trouvaille entre ses mains. Le je ne sais quoi dormait et ne se réveilla pas. Pas plus au cours de l'opération d'enlèvement que pendant le transport. Tiphaine, qui n'avait pas ménagé l'animal en pressant son pas sur le sol irrégulier, ne s'en étonna pas. Les vieux avaient aussi abordé ce point hors du commun.
Notice Wikipédia, extrait 2. La durée du temps de vie éveillé, chez le je ne sais quoi, est une caractéristique annexe à celle de son non-vieillissement. Établie dans la proportion d'un 1/24 par jour, c'est-à-dire en moyenne une heure d'éveil quotidien en temps cumulé, cette durée ne justifie cependant pas à elle seule le caractère vital exceptionnel.
Lorsque l'on a un je ne sais quoi, on ne s'en cache pas. En quelques jours, tout le monde fut au courant. Le mot passait de bouche en bouche. « Tiphaine a un je ne sais quoi !»
Certains ignoraient l'existence de ce petit animal et s'étonnaient. « C'est quoi ?» réagissait-il benoîtement. Alors, on leur donnait les explications wikipédiesques, reprises ici à certains des paragraphes précédents et à d'autres ultérieurs, auxquelles on ajoutait le dialogue téléphonique qui va suivre, fort utile, car il contient la description précise du je ne sais quoi découvert par Tiphaine dans le petit bois derrière la maison de Marcel. C'est son amie Léonie, jointe immédiatement au retour de la fameuse promenade, qui la première lui avait demandé.
« Il ressemble à quoi ton je ne sais quoi ?»«
C'est un peu comme un écureuil. »
Les vieux du hameau avaient raison de dire cela.
« Mais avec une tête de chat et une queue de lapin. »
Certains des vieillards défendaient l'existence de je ne sais quoi inversé, c'est-à-dire à queue de chat et tête de lapin. Mais peut-être y avait-il longtemps qu'il n'en avait pas vu. D'ailleurs, Wikipédia n'en fait pas mention.
« De quelle couleur il est ?»«
Pour l'instant, il est orange, avec les pattes marron clair et la queue violette.
Oh, c'est dingue, t'en as de la chance !»
Léonie avait son franc-parler et ne cachait pas, mêlée à son enthousiasme amical, une pointe de jalousie.
« Mais pourquoi tu dis pour l'instant ?»«
Il paraît que le je ne sais quoi change de couleur tous les mois. »
Oui, c'était encore un élément bien peu ordinaire chez cet animal que cette mue mensuelle. Nous y reviendrons plus loin. Arrêtons-nous d'abord sur sa dénomination. Notice Wikipédia, extrait 3. Comment le je ne sais quoi se nomme lui-même, personne ne le sait. Sait-on ce que sont pour eux-mêmes la vache ou le kangourou ? Évidemment, non, car comme dirait le taquin Lacan, c'est l'homme qui nomme. Et il s'est fait fort, l'homme, dans un rappel à la spécificité la plus déterminante de l'animal, de lui accoler ce qualificatif. Non qu'il soit nécessaire, comme on fit des Plines à l'Antiquité, de distinguer, et pour cause, le jeune d'un ancien. Mais pour souligner le caractère exceptionnel de cette existence organique stable. Oui, Tiphaine en avait de la chance. Tous voulaient voir son je ne sais quoi. Le duo était devenu l'imparable sujet de conversation du moment. La nouvelle s'était propagée au-delà du village, jusqu'à la petite ville voisine. Léonie y avait accompagné sa camarade un après-midi. Dès leur descente du car, une rumeur avait bruissé aux terrasses de café. Des murmures s'étaient envolés des fenêtres ou échappés des véhicules stationnés au feu, tandis qu'une multitude de doigts malpolis la désignaient.
« C'est elle ?»«
Non. »«
Si. Ah, tu crois ?»« Oui, je la reconnais. Qui ça ? La fille je ne sais quoi. Ah, c'est elle, oui, tu vois bien, mais alors il est où ? Quoi ?»
Tiphaine
ne s'affichait pas tant que cela. Le jugement de quelques camarades médisant qu'elle se la pétait était excessif. Pourtant, même en l'absence de la bestiole, qu'elle laissait le plus souvent dans sa chambre, endormie sur le lit au milieu des coussins, on voyait bien que c'était elle et pas une autre, la fille je ne sais quoi. Après cette escapade urbaine, les deux amis ne s'étaient plus parlé en dehors de l'école, jusqu'à cet appel de Léonie. « Salut Tiffaine, tu viens chez moi samedi prochain? J'organise une boum pour mon anniversaire. » « Oui, je ne vais pas rater ça, tu penses? Mais il faut que je demande à mes parents, pour le principe. Tu amèneras ton je ne sais quoi? » « Pas sûr. Avec toute cette agitation autour de nous, il est un peu fatigué, tu sais, en ce moment. Oh, allez! Écoute, je ne peux rien te promettre, mais j'essaierai. Léonard sera là? Je suppose. En tout cas, je n'ai pas manqué de l'inviter, si tu vois ce que je veux dire. » 12 années plus tard, à l'occasion du mariage, précisément à la fin du banquet de mi-journée, lors d'un discours impromptu qui laissa dubitatif ceux qui ignoraient tout de cette histoire, Léonie, très en verve et un peu pompette déjà, devait revenir sur cette période et ses sentiments au moment des faits. Après s'être levée, légèrement titubante, elle avait imposé le silence et l'attention en frappant de sa fourchette une bouteille vide. Un échange de regards avec les mariés, qui s'était attendu à quelque chose de la sorte, mais comment l'empêcher, précéda sa prise de parole.
Certains d'entre vous ne me connaissent pas. Je suis Léonie, une amie d'enfance de Tiffaine. Je voudrais dévoiler un peu des origines de l'union que nous célébrons aujourd'hui, et en particulier mentionner le rôle important joué, oui, par moi peut-être, mais plus encore par le fameux je ne sais quoi, trouvé un jour par la mariée dans le petit bois derrière la maison de Marcel. Léonard, voyez-vous, était un gentil garçon de notre classe, plutôt timide et réservé. Il vivait un peu dans son monde, comme on dit. Et Tiffaine, qui je le savais l'aimait bien, n'avait jamais réussi à établir le contact avec lui. Je me doutais qu'elle comptait sur son je ne sais quoi pour se rendre mieux attractive à ses beaux yeux verts, et mon goûter d'anniversaire lui offrait une occasion idéale. Pour autant, jouer les entremetteuses n'était pas ma priorité. Et quant au je ne sais quoi, mon intérêt pour lui avait cessé. Sa tête de chat, sur son corps d'écureuil, son état lymphatique quasi permanent, cela m'avait lassé. Bien sûr, le voir s'éveiller, remuer sa petite queue de lapin et faire ses cabrioles était amusant. Mais en dehors de Tiffaine, qui y avait droit? Je m'étais rendu chez elle 2 dimanches, rien que pour cela, mais patienté des heures et encore, sans être sûr de le voir se réveiller. Notice Wikipédia, extrait 4. On a observé jusqu'à 12 heures d'éveil continu chez un je ne sais quoi. L'individu en question avait dormi sans interruption les 12 jours précédents, et ceci explique sans doute cela. Mais la durée courante de ces périodes oscille entre 4 et 11 minutes. Durant celle-ci, l'animal tourne lentement sur lui-même en remuant la queue, comme si le chat voulait attraper le lapin. Après l'exécution sommaire d'une roulade, toutes les 7 rotations, le cycle reprend dans le sens contraire. En outre, le je ne sais quoi n'émet aucun son et ne porte pas d'attention particulière à ce qui l'entoure. Bref, je m'en fichais, tout juste disposé à faire le déplacement pour apprécier son espèce de mue, même si, avec seulement 3 couleurs, ce n'était pas un je ne sais quoi si exceptionnel.
Nous prenons la liberté de couper ici le long speech de Léonie. Bien trop long, au goût de certains invités, lequel jusqu'à sa chute, qui coïncide avec celle de notre récit, ne révèle plus rien qui ne soit dit ailleurs.
Notice Wikipédia, extrait 5. Le processus mensuel de changement de coloration du je ne sais quoi rehausse l'attrait de cet animal au fond assez ennuyeux et dont il est peu dire qu'il ne vous tient pas compagnie. En moins de 30 secondes, du centre de son corps vers les membres et les extrémités caudales et capitales, l'épiderme au poil court du je ne sais quoi est parcouru d'un frisson, dont on ne sait s'il est la cause ou l'effet du changement de couleur simultané. Le nombre observé, trop réduit, de ces altérations sur un même individu ne permet pas de déduire une règle chromatique quelconque, pas plus qu'un éventuel rôle joué par l'environnement. Unique constante, le je ne sais quoi conserve à chaque changement le même nombre de couleurs sur des zones de répartition identiques.
Cela vaut pour les tricolores, les pentacolores et le seul spécimen jamais observé, dans le nord de l'Italie, de je ne sais quoi septicolore. La boum de Léonie fut très réussie. Tiphaine et Léonard étaient là. Le je ne sais quoi aussi, et il se réveilla même une fois, restant animé pas loin de 8 minutes, presque un record. Alors que les autres invités se tenaient autour de lui, observant son manège, une stratégie, Léonie n'a pas tort de l'avoir pensé, sans doute anticipé. Tiphaine s'enhardit à se rapprocher de Léonard, demeuré à l'écart. Elle se lança. « Dis, Léonard, qu'est-ce que tu penses de mon je ne sais quoi ?» Léonie, occupée pas loin à recharger les assiettes à gâteau, se dit que son amie avait décidé de ne pas y aller par 4 chemins dans sa tentative de séduction. Elle dirigea ses pas discrets vers la cuisine et n'entendit pas la suite. « Je ne sais pas trop. C'est un peu vain, il me semble. Ça ne sert à rien. Tout de même, c'est distrayant. Ah, oui, peut-être, si tu le dis. Je ne suis pas très bon juge pour les distractions.
Et tu ne trouves pas qu'il est joli ?
Alors là, non, pas du tout. Toi, tu es joli. »
Léonard n'avait pas bondi sur l'occasion. Les mots avaient glissé hors de lui.
Il était embêté,
mais aussi, elle était tellement jolie, avec ses grands yeux sombres, son petit nez et ses cheveux châtains clairs qui dessinaient l'ovale olive de son visage. Étonnant, comme cette fille le retenait sur terre. Le lendemain, se répandit la nouvelle de la disparition du je ne sais quoi. Tiphaine l'avait noté dès son réveil. Surprise, ne pas en être étonnée, et réciproquement. Une fois arrivée à l'école, lors de la récréation, elle en avait informé ses camarades sans même avoir l'air chagrinée. Elle avait eu son moment de gloire, elle en avait profité. Cela resterait sans doute dans les mémoires un bout de temps. Elle s'impatientait plutôt du mercredi suivant, jour de sa promenade hebdomadaire. Depuis l'histoire du je ne sais quoi, elle avait négligé ce rituel auquel elle était pourtant très attachée. À la fête de Léonie, passé l'instant de gêne pour lui et de ravissement pour elle, la conversation avec Léonard s'était close ainsi. « Tu ne voudrais pas qu'on aille se promener ensemble mercredi ?»«
Où ça ?»«
Dans le petit bois, derrière la maison de Marcel. Je te montrerai l'endroit où je l'ai trouvé. »«
Si tu veux, cela me paraît intéressant. »
La promenade fut très agréable et devait par la suite souvent se reproduire. Tiphaine s'avéra incapable de déterminer exactement le lieu de sa découverte. En revanche, avec Léonard, ils firent mieux connaissance et découvrirent, un moment qu'ils rapprochaient leurs visages l'un de l'autre dans un mouvement instinctif, autre chose d'assez indicible et de bien plus important qu'un animal qui dort tout le temps.
Quoi qu'il en soit, et c'est l'occasion ou jamais pour Léonard de le reconnaître, cette fichue bestiole aura au moins servi à cela. Concluant enfin son discours, Léonie avait ponctué son exclamation finale d'un geste peu gracieux désignant les jeunes mariés. Son regard expectatif s'attardait sur Léonard.
« Oui, oui, ça va, je le reconnais »,
accorda celui-ci pour s'y soustraire. Un temps suspendu, le joyeux brouhaha des noces reprit alors son entrain jusqu'à battre son plein au son des petites cuillères cliquetant les assiettes à dessert. Quant à Tiphaine, lumineuse, dans sa belle robe tricolore, violette, orange et marron clair, elle sourit à son époux, en lui chuchotant « amoureuse et complice ».
De toute façon, j'aurais bien trouvé quelque chose.
Quelle imagination, Christophe. On a un tout petit temps, si tu veux, un petit peu nous raconter d'où te vient ce goût de l'écriture et où tu vas puiser toutes ces histoires, et notamment la dernière, plutôt farfelue quand même.
Ouais. Écoute, alors, il y a plusieurs choses. L'écriture, donc ça fait longtemps, hein, beaucoup de chansons surtout. Depuis, je sais pas, genre 25 ans, voilà. Avant les chansons, la correspondance, les lettres, voilà, mais voilà, correspondance, lettres, chansons, différents petits écrits aussi, perso, mais avec rapidement une idée de m'entraîner à écrire aussi quand même, quoi, voilà. Et puis après, ouais, bah après j'ai eu des nièces. Non, d'abord j'ai gardé des enfants, beaucoup. Quand j'avais carrément 20 ans, j'avais déjà écrit. Du coup, je ne l'ai plus fait pendant très longtemps, Mais assez tôt, j'avais écrit des petites histoires, comme ça, quelques-unes, hein, très peu. Il y en a deux. Deux histoires où, qui mettaient en scène, soit dit, les enfants, les nombreux enfants que je gardais, dans deux familles précisément, à l'époque. Et donc après, j'ai eu la chance d'avoir des nièces qui m'ont rappelé à cette initiative d'écriture, voilà. Et là, le premier que j'ai lu, Clara, en fait, c'est une de mes nièces, et il date un peu, celui-ci, parce que les récits, le deuxième et les prochains, sont de l'hiver dernier. Voilà, c'est l'hiver dernier que j'ai écrit tout ça. Il y en a neuf en tout, je l'annonce. Je ne sais pas si j'enregistrerai les neuf, mais il y en a neuf en tout. Mais que, voilà, mais l'éclair et Clara venaient il y a 2-3 ans. J'avais écrit un petit récit pour chacune de mes nièces. Voilà. Et l'éclair et Clara, peut-être c'était le seul, en revanche, qui était un peu plus large, moins personnel. Voilà. Ou justement beaucoup plus. Des fois, quand les choses sont beaucoup plus personnelles, c'est là qu'elles deviennent un peu plus universelles aussi. Quoi. Voilà.
Effectivement, la résonance universelle.
Voilà. Et puis chez moi, il y a toujours l'idée, un truc hyper important dans quasiment tout ce que j'écris, presque tout le temps, il y a quand même l'idée de ma présence en scène. Il y a toujours une notion physique et incarnée dans mon écriture. Là, c'est une lecture voilà, qu'on a prévue, toi et moi, sur Radio Diwa, c'est super. Mais il n'est pas hors de question pour moi d'avoir des lectures sans jouer. Je n'irai pas jusqu'au jeu, ni jusqu'au conte. Voilà, ça restera avec un appui sur papier. Mais les dire, voilà, les dire en scène, les dire en public, c'est quelque chose auquel je pense et qui, voilà, ça viendra peut-être. J'en sais rien. Hein.
Au moment où tu l'écris, tu te vois, tu t'envisages?
C'est plus profond que ça chez moi. C'est-à-dire que ce que je dis là, c'est un constat de mon écriture après coup. C'est que souvent, j'ai pu trouver que mon écriture n'était pas littéraire parce qu'elle a cette présence physique et que du coup, elle n'est pas complète tant qu'elle ne s'incarne pas en scène. Ou là, déjà, pas mal aussi, au micro aussi. Mais voilà. Là, ces récits, je les ai beaucoup travaillés. J'espère qu'ils peuvent être lus aussi, quand même. Mais il y a toujours une petite dimension et que je ne calcule pas. Et je me vois, et au moment où j'écris, je ne me vois pas. Tu vois, pour suivre ton propos, je ne me vois pas en train, je n'imagine pas que je vais le faire, tu vois. Mais je sais que c'est dans mon écriture, quoi. Et souvent, je le constate. Là, ces récits, il y a quand même un gros travail littéraire, quand même. Très rapidement, j'ai pensé recueil de récits. Et donc, du coup, je vois à quel point, du coup, ça rend certains passages difficiles aussi. Ça porte à la présence et à la lecture à voix haute. Bon, je ne sais pas, on verra.
Est-ce que pour toi, écriture et vertu bienfaisante sont directement associées et vont de pair, vont de soi?
Ouais, pour moi, c'est une nécessité même. Hein. C'est une nécessité. C'est un peu, donc, c'est une nécessité que j'essaie de canaliser pour ne pas simplement presser sur un mauvais bouton. Quoi. Tu vois, quand je parle d'un bouton là, dans la joue, là, ou sur le front. Mais c'est une pratique. Moi, j'adore l'idée d'avoir des pratiques dans la vie, des pratiques, on va dire, équilibrantes, régénérantes, récréatives aussi.
Donc effectivement, plusieurs cordes à ton arc, hein, la danse, donc l'écriture de chansons, le chant aussi,
ouais, oui.
L'interprétation en général, ouais. La musique.
La dimension que le bienfait corporel du chant, il y a très peu de temps que je l'ai intégré en fait, parce que là aussi c'était des... C'est marrant, je disais que dans mon écriture, il y avait une présence physique, mais elle a nuit aussi au chant chez moi pendant longtemps. C'est-à-dire que j'avais des textes écrits, je chantais mon écriture un peu directement, sans passer par le chant, qui est un acquis assez récent. Voilà. J'espère que les prochaines fois où on m'entendra chanter, on entendra cette chose-là.
Nous sommes impatients, j'ai envie de dire. Merci Christophe hein, pour cette petite heure passée ensemble. Donc effectivement, chers auditeurs, dans d'histoires et de contes, nous vous proposerons plusieurs volets hein, autour de Christophe Rouillon, de ses écrits, de ses interprétations et de lui tout simplement. Merci Christophe pour ce joli cadeau.
Merci beaucoup Aurélie, merci.
À bientôt. C'était... Récit près du poêle par Christophe Rouillon dans D'histoires et de contes.